I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah.
Podcast. Podcast. Salut, c'est Juliette Katz de Coucou les Girls. Bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Les enregistrements se font assis par terre dans une ambiance cocooning et propice aux confidences. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio, ainsi qu'une fois par mois sur Twitch pour un épisode hors série. Et pour les auditeurs et les auditrices qui écoutent cet épisode mardi 6 décembre, jour de sa sortie, je vous donne rendez-vous ce soir pour ce troisième et dernier live de la saison. Aujourd'hui, je reçois Morgane. Morgane, elle a vu sa vie basculer du jour au lendemain lorsque sa mère s'est retrouvée en prison. Avoir un proche derrière les barreaux, c'est quelque chose auquel personne n'est préparé. Et j'avais vraiment envie qu'on en parle, alors salut Morgane.
Bonjour, bonsoir même. Enchantée.
Enchantée. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire rapidement ce que tu fais dans la vie ?
Oui, alors je m'appelle Morgane, j'ai 27 ans. J'habite dans le Pas-de-Calais, pas très loin de Lens. Et actuellement, je suis à la recherche d'un emploi dans le secrétariat.
Ok, très bien. Si tu devais décrire ta personnalité en trois mots ?
Impulsive,
ouais.
Stressée, courageuse.
Ok, très bien. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt ?
Alors, il n'y en a pas qui me viennent comme ça, mais j'aime bien, avec mon copain, reprendre des expressions de films
okay.
qu'on balance comme ça dans notre vie,
okay.
tout simplement.
Ok, ça me va. L'endroit où tu te sens le mieux ?
Avec mes animaux.
Avec tes animaux ?
Ouais, j'ai
quoi comme animaux ?
Trois chiens, j'ai deux poneys Shetland,
ah
des
ouais.
petits poneys.
Ah, génial !
Ouais, et...
Et tu te sens bien avec
ouais.
eux, c'est là où tu te sens mieux.
Au plus proche de la nature, c'est vraiment mon exutoire en fait.
Ok, ouais. génial, trop bien. Qu'est-ce que tes proches disent de toi ?
Eh bien, je ne leur ai pas demandé. Donc,
mais à ton avis, est-ce que tu penses... C'est, bah, tu vois, tu parlais de ton copain, est-ce que peut-être tu as une idée de ce qu'il pourrait dire de toi ?
Que j'ai un caractère de cochon.
Pourquoi ok.
Mais non, je pense que les proches en général, me trouvent ouais courageuse, mais aussi avec un caractère bien trempé.
Mmh.
Et je pense qu'ils remarquent que je veux pas lâcher l'affaire, mais dans tous les domaines.
Ouais. Ok. Voilà. Très bien. Bon alors, Morgane, je te propose qu'on entame cet épisode. Est-ce que tu peux me parler de ton enfance et du contexte familial dans lequel tu as grandi ?
Oui. Alors donc. Que je suis née en 95 et d'aussi loin que je me souvienne, ça a été toujours un rapport conflictuel avec mon père.
Mmh.
Mon père était dépressif, bipolaire.
D'accord.
Et on avait du mal à communiquer. On n'a jamais réussi à communiquer, jamais réussi à avoir une relation père-fille, somme toute classique, tout en sachant qu'il était violent avec moi quand j'étais petite, physiquement, verbalement, donc psychologiquement aussi.
Petite, c'est quel âge à peu près ?
Je dirais depuis que j'étais toute petite, mais il y a
ah
des
oui.
choses dont je ne me souviens plus.
Mmh.
Mais je me souviens de ce qui se passait, je pense, dès vers 6-7 ans.
Mmh.
Et en tout cas, physiquement, ça a continué jusqu'à mon adolescence, jusqu'à temps qu'il remarque que moi aussi, je pouvais me rebiffer aussi physiquement.
Mmh.
Et ça s'est plus ou moins arrêté aussi pour moi quand je suis partie vivre à l'âge de 16 ans avec mon compagnon.
D'accord.
Et il a été violent... physiquement, psychologiquement aussi avec ma mère.
T'es fille unique ?
Fille unique, ouais.
D'accord.
Et donc, pour elle, malheureusement, ça a continué jusqu'à ce que ce drame arrive.
Mmh.
Il a éloigné ma mère de ses proches, de son travail. Il l'a complètement isolée. Et lui, de toute façon, n'avait pas vraiment non plus de contact avec sa famille. En tout cas, lui aussi, il entretenait une relation conflictuelle avec sa famille.
Est-ce qu'il avait des frères, des sœurs?
Il avait un frère qui est maintenant décédé et il a deux sœurs qui sont encore en vie. Une qui habite dans le Gers et une qui habite dans le Nord-Pas-de-Calais, avec qui je m'entends très bien d'ailleurs.
D'accord.
Mais il a toujours eu une relation conflictuelle avec sa famille, avec sa belle-famille, donc la famille de ma mère,
ouais,
avec son voisinage, avec son travail.
Voilà. Justement, à cette époque-là, dans ton enfance et dans ton adolescence, c'était quoi les rapports que tu entretenais avec tes parents?
Avec mon père, c'était toujours conflictuel.
Quel que soit le sujet,
Il me considérait pas comme sa fille, mais plutôt comme une bâtarde.
Mais ça, c'est ce que tu ressentais ou c'est ce qu'il a pu te dire?
C'est ce qu'il me disait.
D'accord.
C'est ce qu'il me disait. Au même titre que je le considérais pas non plus comme mon père, et il fut un temps où je l'appelais mon géniteur. Voilà. Et donc, avec ma mère, c'était plutôt une relation copine.
D'accord.
Plus copine que mère-fille. Et à mon adolescence, je sais que j'ai été, comme j'ai un sacré caractère, j'ai été une petite peste aussi avec elle. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi elle ne se rebiffait pas. Et ça a été longtemps conflictuel entre nous aussi.
Mais est-ce que tu as eu la sensation, parce que quand tu me dis que tu avais des rapports compliqués avec... avec ton père et que ta mère, il y avait plus quelque chose de copine.
Mm-hmm.
Est-ce que tu as eu la sensation, tu me dis, peut-être que je m'égare complètement, mais est-ce que tu as eu la sensation de t'éduquer toi-même, en fait? Tu vois, de ne pas avoir des parents qui te donnaient un cadre.
Ouais, livré à moi-même, tout à fait. Et bon, j'ai arrêté à l'école tôt, à l'âge de 16 ans, mais je me souviens, quand j'étais au collège, je rentrais de l'école. Soit j'allais m'enfermer dans ma chambre sur mon ordinateur, soit, bon, sans vouloir dire traîner les rues, mais j'étais avec mes copines. En fait, moins j'étais chez moi, moins j'étais en...
Plus, mieux tu te portais.
Voilà, quoi. Exactement.
Et est-ce que tu te souviens du premier événement qui t'a marqué et qui va te marquer pour la suite de ta vie?
Non, je m'en souviens pas particulièrement, mais je sais que c'était répété,
y a pas
toute
eu
cette
un
violence.
Il n'y a non, pas eu un moment où ça t'a marqué tout de suite, où là, tu t'es dit là, c'est plus possible, ou... C'était une accumulation.
Ouais, c'était une accumulation, ouais, tout à fait.
Et à ce moment-là, donc, toi, tu me dis que ton papa, du coup, il y avait une relation hyper conflictuelle entre lui et toi, qu'il y avait des violences verbales et aussi physiques et psychiques, du coup. Est-ce que tu réalises à ce moment-là de la gravité des choses, ou pour toi, c'est presque normal, entre guillemets, puisque tu as grandi là-dedans, ou tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas?
Quand j'étais plus jeune, c'était normal, selon moi, parce que j'ai toujours vécu comme ça. C'est en allant vivre chez mon compagnon et donc en m'écartant de ce schéma familial que je me suis aperçue que ce que je vivais et ce que vivait ma mère, c'était pas normal du tout.
Ouais, je comprends. Est-ce que justement, tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé ou on peut le dire, ou un peu ta vie, elle a un peu basculé?
Oui, bien
sûr. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi, pour ta mère?
Alors, ma maman a été donc accusée de meurtre sur conjoint, donc sur mon père. Donc, pour le dire clairement, elle l'a tué. On ne l'a pas su tout de suite, parce que malheureusement, elle a gardé le corps plusieurs jours.
D'accord.
Et on a fini par s'en rendre compte. En fait, elle prenait comme prétexte que je ne voyais pas mon père quand je rentrais au domicile familial, parce qu'il faisait des tentatives de suicide. Et je ne m'en suis pas inquiétée, parce que c'est ce qu'il faisait dans le passé. Donc, grosso modo, si je ne le voyais pas pendant plusieurs jours, je ne m'inquiétais pas.
Alors, quand tu dis qu'il faisait des tentatives de suicide dans le passé,
oui.
C'est avant que tu naisses ou...
Non. Enfin, je ne pense pas, mais en tout cas, quand j'étais née, oui, je sais qu'il en a fait plusieurs. Donc, des tentatives de suicide médicamenteuses, c'est-à-dire qu'il ingérait des médicaments jusqu'à temps qu'on appelle les pompiers, oui, et qu'il aille à l'hôpital faire un lavage d'estomac.
Et tu l'as vu faire ces tentatives-là?
Oui.
Tu l'as vu.
Je ne le voyais pas ingérer des médicaments, mais on voyait l'après où il tombait des escaliers parce qu'il était stone hein, de médicaments, qu'on devait appeler les pompiers. Je me souviens d'une fois où j'étais partie dans un musée Et il a bu de l'alcool, il a pris des médicaments, il s'est fait arrêter par la police. Mmh. Je pense qu'il devait mal conduire en voiture et que la police s'en est aperçue. Et donc, en fait, voilà, il faisait... Alors, est-ce que c'était des tentatives de suicide ou est-ce que c'était des appels au secours ?
C'est ce que j'allais te demander, ouais.
Parce que, bon, malgré tout le mal qu'il m'a fait, qu'il a fait à ma mère, je pense... Pour être malheureux, enfin, pour rendre les autres malheureux comme ça, je pense qu'ils devraient souffrir d'un mal-être profond. Mais ça n'excuse pas du tout tout ce qu'il nous a fait subir.
Bien sûr, ouais. Qu'est-ce que ça te faisait justement quand tu le voyais dans ces états-là, dans ces moments où il essayait de faire des, enfin, où il faisait des tentatives de suicide ? Est-ce que tu avais de la peine ? Est-ce que tu avais envie de l'aider ? Ou est-ce que au contraire, il y avait une barrière qui s'était installée puisqu'il avait dépassé les bornes depuis longtemps ?
La première fois, de ce que je me souvienne, je devais avoir 8-9 ans et j'avais eu beaucoup de peine parce que je me souviens que quand il était parti à l'hôpital, je devais lui avoir fait un dessin où je lui avais écrit un mot comme quoi je voulais qu'il revienne. Et puis, les années passant et les tentatives de suicide, il en a fait plusieurs. Au bout d'un moment, ouais, il y a une barrière qui s'est installée et franchement, je finissais par... pas calculé.
Ouais, ne plus être touché par ce qui se passe.
Ne plus être touché, c'est ça.
Et du coup, pour revenir un peu à ta maman, est-ce que tu peux nous expliquer quel âge tu avais ? Est-ce que tu étais là ? Comment ça s'est passé ? Pour quelles raisons ? Même s'il n'y a pas d'explication vraiment à donner, mais peut-être pour justement les auditeurs et les auditrices, raconter un peu ce qui s'est passé, si tu le veux bien.
Oui. Alors, moi, je vivais avec mon compagnon à 5 minutes en voiture du domicile familial. Et ma maman, de ce qu'elle dit avoir fait, c'était des violences à répétition. Et je pense que ça s'est empiré aussi quand je suis partie du domicile familial. Parce que je pense qu'il devait se dire qu'il avait le champ libre pour faire tout ce qu'il voulait, puisque de toute façon, il se retrouvait plus qu'à deux. Mmh. Et donc, de ce qu'elle dit, ce jour-là, vers 17h, il a essayé de l'étouffer avec un oreiller, et elle se serait défendue en l'étranglant avec la rallonge du fer à repasser. Voilà. Et nous ne l'avons pas appris tout de suite, parce qu'elle ne nous l'a pas dit, elle ne s'est pas dénoncée. Et donc, elle a invoqué ce prétexte de tentative de suicide, sauf que bon, les jours passants, on s'est inquiété quand même de ne pas le voir. Et pour faire très bref, on a fait un aller-retour au domicile familial et on s'est rendu compte, mon compagnon, moi et un ami commun, un ami d'enfance que j'ai, qu'il était décédé et il était recouvert d'une couette dans le lit conjugal.
Donc, elle a dormi avec...
Elle a dormi dans ma chambre. Donc, elle ne dormait pas dans le même lit, mais elle vivait avec son corps dans le même appartement.
Et donc, jusqu'au moment où toi, tu te rends compte de ce qui se passe, il s'est passé du coup quelques jours ?
15.
Ah ouais, quand même.
Ce qui est quand même beaucoup.
Je pensais que tu allais plutôt me dire 3-4.
Eh non, quand même
15. Pendant 15 jours, ouais. Elle n'a pas osé. Elle avait... Enfin, je pense qu'elle devait être dans un état de peur terrible, quoi.
De peur et, je suppose, de déni.
Oui.
Je pense que dans la tête, il doit y avoir un truc qui fait qu'on ne se rend pas compte. Mmh. Et si on ne s'en était pas rendu compte, combien de temps ça aurait duré ?
Donc en fait, ça a été vous qui a été un petit peu ce déclencheur.
Bien sûr.
Et alors juste pendant ces 15 jours, toi, tu allais souvent la voir ?
Pas souvent. J'y suis peut-être allée 3 fois pour faire mon linge. Parce que là où j'habitais avec mon compagnon, comme ça ne faisait pas longtemps qu'on habitait dans cet endroit-là, on n'avait pas de machine à laver. Et quand j'y passais, c'était vraiment en coup de vent. Parce qu'entre deux, ma mère, elle était hôtesse de caisse dans un supermarché. Okay. Et il l'a forcée, même si c'est elle qui l'a fait, j'estime qu'il l'a forcée, à voler des sous dans la caisse. Mmh. À plusieurs milliers d'euros. Donc, entre deux, elle s'est fait licencier pour faute grave. Elle souhaitait retrouver une formation ou un emploi et lui, il en a empêché. Donc,
il faisait quoi dans la vie, ton papa ? Ou ton géniteur ?
Il était en invalidité depuis de nombreuses années. Je sais que quand j'étais petite, il travaillait, mais je ne saurais même plus vous dire dans quoi.
Ouais, ok, d'accord.
Et donc, entre deux, elle s'est fait licencier, elle a fait de la dépression. Et en fait, quand j'allais chez eux, notamment pendant ces 15 jours, c'était en coup de vent parce que j'entretenais pas de relation avec mon père. J'entretenais de moins en moins de relations avec ma mère aussi, qui devenait malheureusement un légume. Je la voyais dépérir, en fait.
Et du coup, pendant ces 15 jours, enfin, du coup, en tout cas, pendant ces 3 fois où tu es allée la voir, il n'y a pas un moment où tu t'es dit, tiens, elle a un comportement différent ou,
Non, mais par contre, je me souviens qu'à un moment, je lui ai dit « ça pue ».
J'allais te poser la question.
Ça pue. Et elle m'a répondu « c'est les égouts ». Mais moi, je n'ai pas cherché à en savoir plus parce que j'ai vraiment cru que c'était les égouts. Oui.
Et est-ce que tu arriverais à nous décrire un peu cette odeur ou pas? Parce que je sais que j'ai des amis autour de moi qui ont déjà senti ce genre d'odeur-là. Mais c'est une odeur apparemment qui est très notable, enfin qui est très différente de ce qu'on peut sentir habituellement.
Je dirais le rat crevé, mais je ne sais pas Je sais pas comment, c'est pas... Ça sent pas les excréments, ça sent pas... En vérité, ça sent pas les égouts, parce qu'après, maintenant, on sait faire la différence. Et c'est une odeur, malheureusement, que je pourrais reconnaître parmi tant d'autres.
Ouais. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, au bout de 15 jours? Tu avais donc ton compagnon et un ami, et qu'est-ce qui se passe?
C'est un petit peu long à expliquer, mais...
On a tout notre temps, donc...
Mais, avec mon compagnon, on se disait que c'était pas normal...
Que ton père ne soit pas là, que
tu ne vois
pas.
Et donc, en fait, en ce temps-là, on était en train de construire de nous-mêmes un bureau.
D'accord.
Et pour construire ce bureau, on avait besoin de l'outillage qui se situait chez mes parents.
D'accord.
Donc, j'ai demandé à ma mère de faire la route. Donc, il y avait 5 minutes d'écart. J'ai demandé à ma mère de venir me ramener de l'outillage. Et en fait, elle ne fermait pas la porte à clé.
Et de la maison.
De la maison. Ouais, en fait, ils étaient en appartement, mais on avait le badge pour rentrer.
D'accord.
Donc, voilà. Et donc, elle ne fermait pas la porte à clé. Et pendant qu'elle a fait l'aller-retour pour nous ramener, nous, en fait, on est partis dans le logement. Et je me souviens être rentrée dans le logement et d'avoir crié le prénom de mon père que, franchement, je ne pourrais même plus prononcer tellement ça m'a secouée, cette histoire. Et pas de réponse. Et j'ouvre la porte de chambre et je vois, en fait, une couette, une masse dessous, donc au final, un corps. Mais moi, j'en ai pas vu plus, parce que...
T'as pas soulevé la couette?
J'ai pas soulevé. Et allez savoir pourquoi, on a fait demi-tour. On est rentré chez nous. Donc, quand on est rentré chez nous, ma mère m'attendait, donc on lui a prétexté qu'on était partis au magasin, etc., etc. Et entre deux, donc elle est repartie chez elle sans se rendre compte de rien.
Tu lui as rien dit
Je lui ai rien dit.
Et est-ce qu'à ce moment-là, tu savais? Pas forcément que ce soit ton père, mais est-ce que tu savais, te disant... Il y a quelque chose sous cette couette, il y a une masse. Ou alors c'est moi qui psychote et qui suis folle et...
Je crois que je me suis dit ça, c'est moi qui psychote.
Ouais.
En fait, je savais sans savoir, je pense que j'ai eu un déni aussi.
Oui.
Il n'y avait pas le tilt dans mon cerveau. Mmh. Et ensuite, elle est rentrée... Oui.
Je me permets, est-ce que justement, quand t'es rentrée dans la chambre, il y a eu un peu cette odeur qui t'a frappée au visage ou pas spécialement?
Pas de ce que je me souvienne, étonnamment.
Mmh.
Et donc, elle est rentrée chez elle et il y a cet ami commun à nous avec une amie d'enfance aussi à moi, qui sont en couple, qui sont mariés. Et ils étaient venus nous voir pour toute autre chose, rien à voir avec ça. Et on leur a dit, voilà ce qui se passe. On leur a exposé les faits. C'est bizarre, on leur a dit. Et notre ami...
Voilà ce qui se passe. On a été chez ma mère. On a vu une masse sous cette couette. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas qui c'est.
Ouais.
Mais on suppose que... Est-ce que déjà, tu supposais quand même...
On supposait, oui.
D'accord.
Ouais, ouais. Et notre ami commun, par chance, est infirmier. Et il a dit, écoutez, je veux bien aller voir. Parce que je suis infirmier. Et s'il y a un cadavre, il faut dire le terme comme tel, je suis plus à même de...
D'identifier,
mais j'y vais pas tout seul. Donc, c'est mon compagnon qui y allait avec lui.
Toi, tu voulais pas.
Ah ouais, j'avais pas les couilles, pardon, mais.
Bah non, mais ça se comprend tellement.
Ouais. Et donc, j'ai rappelé ma mère qui a fait l'aller-retour parce que je lui ai encore raconté une histoire d'outillage.
Ouais.
Voilà, bon, elle a pas cherché. Puis je pense qu'elle, elle était tellement en train de dépérir qu'en fait, j'aurais pu lui raconter n'importe quoi.
Bien sûr.
Et donc, ils se sont peut-être même croisés sur la route, en fait. Hein. Et donc, j'ai dit à mon compagnon, écoute, vous revenez et vous nous dites quoi? Et quand il est revenu, quelques minutes après, son visage livide. Donc, en fait, là, j'ai su...
De son compagnon?
Ouais, de mon compagnon. Livide. Et notre ami qui a dit, ouais, c'est ton père, il est mort et c'est chaud. C'est chaud, là, ce qui se passe.
Comment t'as réagi, toi, à ce moment-là?
Oh, je crois que j'étais dans un état second. Et mais qu'est-ce qu'on fait? Mais
T'étais en colère contre ta mère ou contre ton père? Est-ce que t'avais de la colère, de la tristesse, de
J'ai jamais eu de colère contre ma mère par rapport à ce qu'elle a fait. Tout ce que j'ai comme colère, c'est contre mon père. Mmh. Et donc, on rappelle ma mère une troisième fois, qui se redéplace. Et là, contrairement à d'habitude, on l'a fait monter chez nous parce qu'on habitait aussi en appartement. Et on referme la porte et on lui dit « dis-nous ce qui se passe ». Et là, en fait, elle dénie complet. Mais quoi, je vois pas de quoi tu veux parler.
Et là, elle a un comportement normal, même si elle est dans le déni. Tu trouves pas qu'elle a une attitude différente de d'habitude?
Si, elle se gratte les cheveux, elle se tire un peu les cheveux. On dirait qu'elle a le visage hagard. Et donc, on lui explique. Et ce qu'on a vu, ce qu'ils ont vu aussi. Et c'est là qu'elle me balance. Il a tenté de m'étouffer, donc je l'ai étranglée.
Je me suis défendue.
Ouais, je me suis défendue. Donc là, on se dit, mince, qu'est-ce qu'on fait? La logique, c'est d'appeler la police. C'est la première chose qu'on fait.
Podcast. Est-ce que tu t'es dit pendant un moment, je veux la garder sous mon aile, ma mère, je sais pas ce qui peut se passer, mais je veux comment je pourrais dire ça? La sauver de quelque chose. Est-ce que tu as eu un peu un moment où tu t'es dit, j'appellerai pas les flics?
Je me suis pas dit, j'appellerai pas les flics, mais en fait, c'était le week-end de Pâques, et en fait, on devait partir chez les parents de mon compagnon.
D'accord.
Et ma mère, elle était en train limite de me dire « va à ton week-end, profite, et limite, on verra ça en rentrant. » Et moi, franchement, si j'étais qu'avec elle, bêtement, je lui aurais dit « ok ». Et c'est notre ami infirmier qui, heureusement, a eu l'intelligence de dire « non, ah, on appelle tout de suite, c'est trop grave ce qui se passe, on pourrait être complice. » Et surtout, ta mère, elle vit quand même avec un corps en cours de putréfaction, ouais, c'est ça, décomposition. Et il y a des choses qui émanent de son corps et c'est pas bon, c'est pas sain. Bon, heureusement qu'il nous a raisonné, parce que moi, j'étais quand même encore dans une sorte de déni. Et donc, c'est mon compagnon qui a appelé la police. Alors, je sais plus s'il a appelé la police ou les pompiers en premier. En tout cas, il a appelé quelqu'un. On s'est donné rendez-vous devant le logement de ma mère, de mes parents. Donc, la police est arrivée, les pompiers, et là, mais un bal de personnes.
Ce qu'on voit à la télé. Quoi.
Ouais, des brancardiers, parce qu'ils ont eu apparemment une mauvaise info. Mon compagnon, il a bien expliqué que c'était quelqu'un qui était décédé. Mais je pense que les pompiers ont eu l'information comme quoi c'était quelqu'un qui était en train de faire un arrêt. Donc, il y a dû y avoir une confusion quelque part. Et en fait, ma mère, elle est prise en charge dans un camion de pompiers. Donc, je pense qu'ils lui ont fait des examens médicaux. Et tout de suite, en fait, elle leur dit. Elle leur dit ce qu'elle a fait. Donc,
oui, elle reconnaît.
Elle reconnaît tout de suite.
Et est-ce que tu sais, maintenant, avec le recul, si elle le dit pour se dégager de cette culpabilité ou alors d'une peur d'une... Je ne sais pas. Est-ce que tu sais pourquoi elle le dit d'un coup comme ça?
Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Mais bon, toujours est-il que oui, un bal de personnes, on nous prend nos noms, nos numéros de téléphone. Ils habitaient au premier étage et ils n'avaient pas de rideau. Donc on voit des flashs. Donc avec du recul, je me dis que c'était un médecin légiste. Donc forcément, l'appartement mis sous scellé, interdiction de remonter en haut. Ma mère, elle fume. Donc elle aurait voulu un paquet de cigarettes. Bon, on ne pouvait pas. Bon, après, je ne fume pas, mais je peux comprendre qu'elle ait besoin d'une cigarette au vu de la situation. Mais bon, voilà. Et puis, ma mère, elle se fait emmener au bout d'un certain temps. Alors, à la base, je ne sais pas où, parce qu'en fait, ça se passe...
On ne te dit rien.
On ne me dit rien. On ne me dit rien. Et il y a quelqu'un qui me dit « Est-ce que vous voulez témoigner maintenant, ce soir ou demain ?» Bon, moi, je dis... il était environ 19h, donc je dis « ce soir ». Mais moi, je ne me rends pas compte de la situation, en fait. Ouais. Je ne me rends vraiment pas compte. Et entre deux, on revient chez nous, mon compagnon et moi. Donc moi, je sais que ma mère, elle est partie, mais je ne sais pas où.
T'es inquiète?
Ouais, inquiète. Inquiète et en même temps, une forme de déni, parce que je me souviens... Mais alors, c'est con, ce que je vais dire. Je me souviens avoir dit, putain, on n'a pas de machine à laver, comment on va faire notre linge? C'est totalement débile, mais avec du recul.
Oui, non, mais bien sûr, t'étais complètement. Oui, non, mais ça s'entend totalement, je trouve. Hein. C'est juste que il se passe quelque chose de fou. Et en même temps, moi, je d'un point de vue extrêmement extérieur, depuis que t'es enfant, tu assistes à des violences. Tu subis des violences psychiques, physiques, etc. Là, il se passe ça parce que ta mère, elle se défend et que, juste, à mon avis, c'était une manière pour elle de mettre fin, en fait, à tout ça, mettre fin au calvaire qu'elle vivait depuis des années. Et peut-être qu'en fait, c'était à la fois un déni, mais peut-être qu'à la fois, tu t'attendais inconsciemment peut-être à ce qui se passe ce genre de choses et que, je sais pas.
Je m'attendais à ce qui se passe ce genre de choses, mais que ce soit ma mère qui meure.
Eh oui, bah oui.
Je m'attendais...
Tu t'es jamais attendue à l'inverse.
Jamais. Jamais je pensais qu'elle en arriverait là, à ce malheureux geste. C'est pas bien ce que je vais dire, mais en même temps, putain, elle l'a fait, quoi.
C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que pour toi, quand t'as su ça, tu t'es dit « elle s'est sauvée » ou
il y avait
un truc où tu t'étais presque fière, entre guillemets
Ouais. C'est bête à dire.
Non, mais... c'est pas bête à dire.
Et donc, j'ai été auditionnée au commissariat, à savoir que je suis rentrée dans une pièce. Je pensais juste être auditionnée, témoigner de ce que je savais, de ce qui s'était passé. Je rentre dans la pièce et je vois mon nom, prénom sur un tableau et je vois où c'est marqué « homicide volontaire ». Et là, je me dis « mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, pour la faire courte, comme ils ne savaient pas, les policiers, le commissariat, ce qui s'était passé, au début, ils m'ont mis dans la même situation que ma mère, comme si c'était moi
toi.
Qui l'avais fait, ou comme si je savais quelque chose auparavant. Donc, j'ai été auditionnée, enfin, j'ai eu une garde à vue de 37 heures quand même. Et donc, j'ai eu un avocat commis d'office, j'ai eu plusieurs interrogatoires. Alors, vraiment comme à la télé, hein, un flic sympa, un flic pas sympa.
Le good cop, bad cop.
C'est ça, c'est ça. Et moi, j'étais sonnée par la situation. Et en fait, je pense qu'ils étaient étonnés que je n'ai même pas de regret sur le geste malheureux, certes, qu'elle a fait. Et que j'étais limite à 100% avec ma mère, quoi. Et bon, ça a été compliqué quand même la garde à vue parce qu'on te traite comme un chien. Ce qui m'a marqué, c'est que j'étais donc dans une cellule et tout ça, et je ne sais plus si j'ai demandé à aller aux toilettes ou si on m'a donné quelque chose à boire. Et en fait, je me suis plaint de quelque chose et la policière m'a dit « Ah bah oui, mais en même temps, vous n'aviez qu'à pas tuer votre père. » Et en fait, j'étais scotchée parce que je n'avais pas la force de rétorquer. Mais j'étais scotchée qu'on puisse me parler comme ça. Enfin, ça a été vraiment dur.
Ouais, je comprends.
Et ce qui a été dur aussi, c'est que bon, ça faisait des cellules en perpendiculaire, donc des
T'étais
couloirs.
T'étais toute seule
dans ma cellule, ouais. Mais donc, il y avait une vitre où je pouvais voir un petit peu l'extérieur. Et ce qui a été très dur, c'est que ma mère a été en garde à vue en même temps que moi. Et je voyais ma mère à une autre vitre. Je l'apercevais, c'était un peu flou, mais je savais que c'était elle. Et j'entendais « Morgane, Morgane, réponds-moi, Morgane !» Et en fait, mais on est comme dans un film, je me disais « Est-ce que je peux lui répondre ? Ou est-ce que si je lui réponds, est-ce que ça peut se retourner contre moi ? Si ça se trouve, j'ai pas le droit.
» Et en fait, c'était ça. Oui, tu deviens parano, quoi.
Oui, tu deviens parano, parce que tu sais pas ce qui t'attend. Ouais. Et donc, en fait, donc, j'ai été interrogée, j'ai eu une confrontation avec ma mère aussi. Donc, moi, je disais que j'avais rien à voir là-dedans et que ma mère confirmait que je n'avais rien à voir là-dedans. Et au bout de 37 heures de garde à vue, j'ai été libérée.
Et pendant cette confrontation-là, t'étais dans quel état ? Est-ce que t'étais dans un état de soutien avec elle ou t'étais quand même, où il y avait quand même de la colère ?
Pas de soutien, pas de colère, mais en fait, j'étais dans un autre monde.
Ouais,
c'est
ouais,
comme si
sonnée,
j'étais
stone.
Ouais, j'étais sonnée.
Ouais, ouais.
C'est ça. Je ne me rendais pas compte de ce qui se passait. C'était lunaire pour moi.
Et donc, au bout de 36 heures, tu es relâchée.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce que tu réalises un peu plus ou est-ce que tu...
Alors, on me relâche comme ça, sans attendre que quelqu'un vienne me chercher, sans rien me dire. J'aurais pu aller me foutre sur les roues d'un camion, personne ne l'aurait su. Très sincèrement.
Ouais.
Donc, la première chose, c'est que j'appelle mon compagnon pour qu'il vienne me chercher. Et bon, ma mère avait des chiens. Donc, lui, il avait récupéré les chiens entre deux, etc. Forcément, il n'y a pas eu de week-end de Pâques chez la belle famille. Donc, la belle famille est venue.
Ils ont su tout de suite.
Ils ont su tout de suite. Ils n'ont jamais fait de commentaires par rapport à ça. Et je me demande encore ce qu'ils pensent.
Et t'as pas envie de leur demander ?
Si, mais connaissant mon caractère, si je leur demande, ce ne sera pas poliment, parce qu'une petite aparté, ça fait un an que ma mère elle est incarcérée de nouveau. En un an, ils ont demandé une seule fois des nouvelles de ma mère, ne serait-ce que comment ça... Ça fait 10 ans que je suis avec mon compagnon.
D'accord.
Ça, c'est un autre sujet, mais...
Ok. On va juste marquer une petite pause pour un truc un peu léger qui s'appelle l'intimidé. Peut-être que tu connais ce jeu, oui. Vu que tu as écouté le podcast. Donc alors, juste devant toi, voilà, il y a un dé avec sur chaque face. Alors c'est bizarre de faire ce jeu alors qu'on est dans une discussion hyper profonde, mais quand même, ça fait du bien d'avoir un peu de légèreté. C'est pas un jeu, je sais que c'est pas un jeu, mais ça reste un petit peu un jeu. Donc, juste devant toi, il y a un dé avec sur chaque face, non pas des chiffres, mais des couleurs. Rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Chaque couleur correspond à une émotion et chaque émotion est relié à une question. Je t'invite à lancer le dé. Orange. Alors, qu'est-ce qui est rédhibitoire chez un mec ou chez une fille, pour toi ?
Le mensonge. Je peux pas le supporter, le mensonge.
Que ce soit en amour ou en amitié, dans le travail, c'est quelque chose qui est...
Le mensonge et le jugement, sur tous les domaines.
Ça, tu pardonnes pas ça ?
Ben, j'ai du mal... J'ai du mal avec les personnes qui jugent sans savoir, voilà.
Ok, tu veux bien tirer le dé encore une fois. Bleu. Quel est l'animal qui te fait le plus peur ? Pourtant, t'aimes bien les animaux.
Facile, guêpe.
Ah ouais, je comprends.
Tout ce qui a un dard.
Les frelons asiatiques.
Ah, punaise.
Tu sais qu'il y en a un qui est rentré chez moi hier, alors que je suis à Paris et qu'il fait 10 degrés.
Mon Dieu.
Et j'avais la fenêtre ouverte et il y a un frelon asiatique qui est rentré chez moi, j'ai eu la peur de ma vie.
Ah, moi, ça me fout. Je suis vraiment phobique. Une fois, on a fait un repas dehors, il y avait 2-3 guêpes, je me suis mise à chialer, rentrer chez
je
moi.
Comprends,
quoi.
Ah, je comprends, non, mais c'est terrible. Hein. Est-ce que tu peux tirer le dé une dernière fois ? On le fait, allez, on le fait 3 fois. Et rouge. On dit qu'en général, l'amour dure 3 ans. Enfin, l'amour-passion dure 3 ans. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas du tout ? Je pense que tu vas me dire non, vu que ça fait 10 ans que tu es avec ton mec.
Ça fait 10 ans que je suis avec lui, donc non, mais on passe une période difficile. En espérant que ça aille mieux. Bon, il y a tout l'univers aussi qui fait que ça va pas trop, moi, moralement, mais voilà.
Ok. On va revenir un peu à ce que tu m'expliquais. Donc, tu rentres chez toi, ton compagnon, il vient récupérer les chiens.
Ouais.
Et donc...
Et la prochaine étape, c'est il faut qu'on prévienne la famille.
Okay.
Donc, j'ai téléphoné à ma grand-mère, qui est venue avec moi, du coup, pour ce voyage aujourd'hui, pour la prévenir. Et bon, j'ai des bien meilleurs rapports avec elle aujourd'hui parce qu'on est très soudés. Mais quand j'étais plus jeune...
Pardon, ta grand-mère, c'est la mère de ta mère ?
C'est ça.
D'accord.
Ouais. Et on est plus soudés aujourd'hui, mais avant, on entretenait moins de rapports, mais parce que mon père nous avait éloignés de toute la famille, en fait. Donc, il a fallu que je la prévienne, et c'était le week-end de Pâques, donc elle était dans de la famille, avec le frère de ma mère, ses enfants, etc. Et là, de ce qu'elle m'a expliqué, elle est tombée sur sa chaise, quoi.
Elle l'a su au bout de combien de temps ?
Ben, 2 jours après, juste après que je sois sortie de garde à vue.
D'accord,
quoi.
Donc elle l'a su au bout de... 17 jours.
Voilà,
quoi.
C'est ça. Et en fait, elle m'a confié par la suite qu'elle s'attendait vraiment à ce que ce soit l'inverse.
Comme toi.
Comme moi, que ce soit ma mère qui meure. Et donc, il a fallu... En fait, au début, elle ne se rendait pas compte. Je lui ai dit, mais mamie, il faut qu'on se voit très vite parce que c'est grave ce qui se passe, c'est important. Et donc, en fait, a commencé à se mettre en place le soutien familial. Et en fait, en soi, je n'avais pas grand monde non plus à prévenir parce que j'ai une petite famille. Après, il y a du remariage, etc. Donc, c'est des gens qui sont plus éloignés de moi. Mais en fait, en soi, j'ai au début prévenu personne d'autre que ma grand-mère parce qu'après, elle s'est occupée de faire le relais. Et au niveau de la famille de mon père, sa mère, à lui, était encore en vie, mais je n'avais pas de contact avec elle. Elle était atteinte d'Alzheimer.
D'accord.
Donc, je ne l'ai pas prévenue, puis j'entretenais pas non plus de rapport avec elle. Et par la suite, j'ai réussi à entrer en contact avec l'une de ses sœurs, donc ma tante, qui l'avait appris par du bouche à oreille. Et en fait, j'ai réussi à retrouver la trace de sa fille, donc ma cousine, sur Facebook. Et je l'ai contactée en disant, écoutez, faut qu'on se voit, faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Et en fait, j'avais pas, on habitait pas loin, mais j'avais pas de rapport avec eux. Mmh. Donc, j'avais pas leur numéro, j'avais pas leur adresse, je savais pas comment les contacter, en fait.
C'était compliqué pour toi comme moment à annoncer ça aux proches
Ouais, c'est difficile comme démarche parce qu'il faut raconter ce qu'on sait, on nous pose des questions et moi, j'avais pas la réponse aux questions non plus parce qu'au début, j'étais dans la même situation qu'eux, j'étais pas au courant au début, hein, Donc, il a fallu, ouais, et puis après, on s'est vus. Et puis, je sais aussi qu'on a beaucoup parlé par téléphone et ça a été des longues conversations. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la prochaine étape? Parce qu'entre deux, après, donc moi, je suis sortie de garde à vue. Mais ma mère, elle a été déférée au parquet.
Justement,
puis incarcérée.
J'allais te demander, d'un point de vue un peu judiciaire, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Écoutez, moi, après, on m'a plus ou moins laissée tranquille, moi, personnellement, au niveau judiciaire, sauf que j'ai appris par la suite qu'entre deux, mon téléphone a été mis sous écoute pendant de nombreux mois parce qu'ils avaient toujours un doute que, potentiellement, je sache quelque chose ou j'ai fait quelque chose. Donc, j'ai été mise sous écoute. En fait, ils ont eu des conclusions comme quoi j'avais rien à voir là-dedans. Parce que quand je téléphonais à ma famille, ils se rendaient compte que mes propos coïncidaient avec ce que moi, je leur disais. Après, je me suis mise en relation avec l'avocate de ma mère, qui était donc une avocate commise d'office, qui a suivi tout le dossier de ma mère. Et puis, on a essayé de grappiller des infos à droite à gauche. Il faut appeler telle personne, il faut aller essayer... Je sais que le dimanche, quand j'ai appelé ma grand-mère, elle a réussi à avoir l'info comme quoi ma mère était déférée au parquet d'un tribunal. Elle s'est rendue jusqu'au tribunal pour essayer de voir ma mère. En fait, on était dans le flou. Dans le flou, plus total.
Parce qu'en fait, tu ne savais pas du tout où était ta mère, ce qui se passait. Mmh. Donc, ça devait être un moment hyper difficile pour toi.
C'est ça. Et ensuite, ma grand-mère a réussi à avoir des informations. Donc, après avoir été déférée au parquet, elle a été incarcérée. Donc
Je me permets juste, parce que peut-être il y a des gens qui vont peut-être pas savoir ce que ça veut dire, déférer au parquet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu
J'ai pas la définition exacte, mais en gros, c'est après la garde à vue et juste avant d'être incarcérée. Okay. Je pense qu'elle a dû passer devant un juge, un magistrat.
Oui, c'est ça.
Voilà. Okay. Et donc, elle a été incarcérée à Sequedin, donc ça me dérange pas du tout de donner l'endroit, pendant 6 mois, donc en détention préventive.
D'accord.
Moi, je n'avais pas de contact avec elle, hormis des lettres qui étaient lues, parce qu'ils lisent tout ce qu'on écrit.
Ah, mais elle ne peut pas te répondre.
Elle pouvait me répondre, mais il y avait des soucis d'acheminement, ça a été long. Et en fait, comme je n'étais pas lavée de tout soupçon, si on peut dire ça comme ça, je n'avais pas le droit d'aller la voir. Donc, j'avais pas de demande de parloir possible.
C'est hyper dur, je trouve, quand même.
C'est hyper dur, ouais.
T'apprends ça, t'es en garde à vue, après t'es remis dehors, et puis après ta mère, pendant 6 mois, tu peux pas la voir, tu sais pas ce qui se passe, ni l'appeler, ni rien. Enfin, c'est hyper difficile.
Hormis des lettres.
Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu te rappelles un peu dans l'état dans lequel t'étais à ce moment-là? Est-ce que t'étais dans l'inquiétude, dans de la colère?
Dans l'inquiétude, toujours dans le flou, et même encore aujourd'hui, puisqu'entre deux, elle a été réincarcérée, mais. Et donc, ma grand-mère pouvait aller la voir, son frère aussi à ma mère. Et je me souviens d'une fois où ça m'a marqué, mais ils n'ont pas fait exprès. Une fois, ils sont rentrés d'un parloir et je leur ai demandé alors comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et puis, ils m'ont répondu rien. Mais en fait, ils avaient eu des infos peut-être, mais ils m'ont répondu rien. Comme si c'était normal. Mais moi, en fait, j'avais aucune info. Mmh. J'avais pas le droit de la voir. Et en fait, j'ai explosé en larmes.
Ouais, mais je comprends tellement.
Comment ça, rien? Si, vous avez sûrement des choses à me dire. Dites-les-moi, je veux savoir. Et au final, ça s'est désamorcé. Et puis, ensuite, j'ai pu faire une demande de permis de visite de parloir au mois de septembre 2015. Donc parce que ça s'est passé en 2015.
Ok. Donc, t'as attendu combien de temps?
Entre avril et septembre.
Ouais, quand même.
Ouais. Et j'ai pu aller la voir 2-3 fois au parloir parce qu'ensuite, elle est sortie en liberté conditionnelle.
Alors, il se passe qu'en fait, là, il y a une peine prononcée de 6 mois, c'est ça?
Même pas. C'est parce qu'en 2015, sans savoir... Au départ, il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu d'audience, il n'y a pas eu de procès. Donc, en fait, elle était en préventive. Donc, c'est-à-dire que...
Elle n'est pas condamnée.
Elle n'est pas condamnée. Okay. C'est avant une condamnation.
En gros, c'est comme si elle est en salle d'attente en prison et attend...
C'est ça.
Vulgairement, c'est un peu comme ça. Ok, d'accord.
C'est ça. Et donc, l'avocate de ma maman... Bon, je ne sais pas comment elle a fait dans son travail, mais elle a réussi à la faire sortir au bout de 6 mois, donc en liberté conditionnelle.
Quand tu vas la voir pendant ces 2-3 fois... Tu vas la voir au parloir. Comment ça se passe?
C'est dur. La première fois, c'est dur et en fait, on pleure. On pleure parce qu'on craque. C'est l'émotion, c'est l'inquiétude. Et puis nous, c'est la première fois qu'on y va. Donc, c'est très impressionnant.
J'imagine.
On a très mal au ventre quand on arrive. Et maintenant, avec le temps qui passe, c'est triste, mais on en prend l'habitude. Mais en fait, c'est ça le pire, c'est plus rien ressentir tellement on a l'habitude. Et donc, ça a été un moment très émouvant et plein de questionnements. Ça a duré 45 minutes.
Chaque fois, ça durait. Tu l'as vu deux, trois fois, c'est ça?
Ouais, ça a duré 45 minutes. Et en fait, un parloir, on donne notre pièce d'identité, on passe sous un portique comme à l'aéroport. Nos vestes, si on a un sac de linge à lui ramener, tout passe dans un détecteur. Et ensuite, on est dans une salle d'attente en attendant que ce soit notre tour. Et en fait, on n'est pas tout seul. Il y a plusieurs personnes qui viennent voir des gens, hommes et femmes confondus. Mmh. Et donc ensuite, selon le numéro de parloir qu'on a, on nous fait entrer dans une pièce avec une table et des chaises. Je me souviens à ce que d'un, en 2015, il y avait un muret pour nous séparer, mais un muret pas plus haut que les genoux.
D'accord.
Et on nous enferme, en fait. Hein. Puis, d'abord nous, et ensuite, ils font venir la détenue.
Mmh.
Et donc, pendant 45 minutes, on peut parler. Ça peut être écouté aussi. Ils peuvent écouter ce qu'on dit au bout de 45 minutes. Quelques minutes de plus, parfois, quand il y a du rab. Ensuite, on nous fait sortir. Et puis, le détenu repart, regagne sa cellule et soit est fouillé, soit pas fouillé. Ça dépend, c'est aléatoire.
Est-ce que tu peux nous raconter brièvement, parce que ça, c'est votre intimité, mais ce que ta mère, est-ce que toi, comment vous avez échangé ces premières fois? Est-ce qu'elle s'est, je ne sais pas, excusée? Je ne sais pas. De quoi vous avez parlé?
Excusée, je ne pense pas, mais elle s'inquiétait énormément pour nous, en fait. Parce que elle s'est rendue compte qu'on avait eu un moment très bouleversant, qu'on avait beaucoup de charges mentales. Même si elle n'a pas dit clairement, ça se voyait qu'elle n'était pas bien pour nous. Alors, ça peut paraître bête, mais on a récupéré ses chiens, donc elle s'inquiétait. Mais tu sais, si financièrement, parce qu'à ce moment-là, je ne travaillais pas, ni moi, ni mon compagnon. Elle me disait, mais tu sais, si tu n'arrives pas à garder les chiens, tu t'en sépares, ce qui était pour moi hors de question. Mais en fait, elle s'inquiétait pour nous. Elle me disait de faire attention à moi, faire attention à mon compagnon.
Est-ce qu'elle t'a parlé d'elle, de comment elle se sentait? Est-ce que tu lui posais des questions?
Ouais, je lui posais des questions. Et puis, je pense qu'elle essayait un petit peu de ne pas trop en dire non plus pour qu'on s'inquiète. Mais au début, pour elle, ça a été dur de s'acclimater. En fait, elle ne savait pas non plus où elle allait. Et puis, en tout cas, en 2015, ce qui n'est plus le cas maintenant, en 2022, elle était avec une co-détenue dans sa cellule. Et puis, en fait, elle découvrait plein de nouvelles choses parce que c'était un univers complètement différent, quoi.
Est-ce qu'à un moment, tu as douté d'elle? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit... est-ce que tu as douté d'elle, de sa sincérité
Non, non, non. J'ai pas douté d'elle, mais par contre, quelque chose d'assez complexe. En 2021, il y a eu un procès en cour d'assises. Et l'avocate a joué sur une hypothèse qui n'a pas été suivie. C'est l'hypothèse des faux souvenirs.
D'accord.
Donc, c'est l'hypothèse que peut-être que ma mère l'a rêvé si fort, ce qui s'est passé, que peut-être elle n'aurait rien fait, mais que ça se soit passé quand même, parce que mon père avait des gros soucis de santé, il fumait.
Attends, qu'elle aurait rien fait, c'est-à-dire que...
En fait, si tu préfères, comme il y a eu 15 jours entre sa mort et le moment où on l'a découvert, ils n'ont pas réussi à déterminer exactement la cause. Il est décédé d'un arrêt respiratoire, ou cardio-respiratoire. Elle dit l'avoir étranglé. Mais après autopsie, les os au niveau du cou, j'ai pas exactement les termes.
Ils sont intacts, quoi.
Sont intacts. Il y a une trace, mais les os sont intacts. Et en fait, au procès, justement, la cour, ils se sont posé la question sur est-ce qu'elle l'aurait pas étouffé, donc asphyxie, plutôt qu'étranglé. Mais ma mère maintient qu'elle l'a étranglé. Et par contre, l'avocate a émis l'hypothèse que peut-être qu'elle n'aurait rien fait, et qu'il soit mort naturellement. Ou peut-être, ça peut être une hypothèse aussi, mais qui n'a pas été suivie non plus, est-ce qu'elle n'aurait pas essayé de l'étrangler? Et qu'elle elle n'a pas serré si fort pour que ce soit ça qui le tue, mais que ça l'ait privé d'air et que ça lui ait causé un arrêt respiratoire. C'est assez complexe. Et c'est une hypothèse qui n'a pas été suivie. Mais du coup, ce qui fait qu'on a eu des doutes, en fait, on se demande, au final, c'est pas prouvé. Elle est reconnue coupable, mais c'est pas prouvé officiellement.
Ça doit être particulier pour toi, vivre...
Ça doit être particulier. Et en fait, même quelquefois, je lui demande, je dis, mais t'es sûre, tu te souviens pas? Et en fait, comme elle prenait beaucoup de médicaments à ce moment-là, elle peut plus attester. Elle peut plus attester ce qu'elle a fait. Donc en fait, elle se souvient pas exactement.
Est-ce qu'ils ont remis en doute, j'espère pas, j'espère vraiment pas, est-ce qu'ils ont remis en doute les violences qu'elle a subies? Parce que tu sais, il y a énormément de violences conjugales, il y a énormément de violences faites aux femmes, il y a, je sais plus, je crois qu'il y a 118 féminicides depuis le début de l'année 2022 en France. Et est-ce qu'ils ont un peu remis en question ça ou pas du tout? Ils ont complètement entendu, en fait, toute cette douleur-là et toute cette réalité?
Je pense qu'ils ont vraiment entendu toute cette douleur parce qu'il y a eu assez de témoignages. On a témoigné, ma famille a témoigné, ses anciennes collègues de travail de ma mère ont témoigné. Et en fait, je me souviens que ma grand-mère, elle avait emmené ma mère chez une assistante sociale dans le passé pour que l'assistante sociale, elle prenne en photo les coups. Et en fait, ça n'avait pas été plus loin parce que ma mère n'a jamais voulu déposer plainte.
J'allais te demander ça. Est-ce que justement... Elle n'a jamais porté plainte.
Non, jamais.
Et pourtant, elle avait des traces sur le corps, j'imagine.
Elle avait des traces, mais au fur et à mesure, de ce qu'elle me disait, il tapait sur sa tête pour pas que ça se voit, en fait. Et je me souviens, un peu de temps avant qu'il se passe ce drame, elle avait un coup, il me semble, je sais plus où, mais je lui ai demandé, elle m'a dit « je suis tombée ». Et je lui ai dit « ouais, c'est ça,
ouais,
t'es tombée ».
Tu la croyais plus, quoi.
Et un jour, quelques jours après, elle a pris mon compagnon en aparté, et elle lui a dit, ça, c'est lui qui l'a fait. Et elle ne me l'a pas dit à moi, elle l'a dit à mon compagnon.
Oui, mais elle voulait te préserver, je pense, qu'à un moment...
Ouais.
Et toi, d'être au final, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, vraiment, est-ce que toi, tu t'en fous de te dire, en fait, je ne veux même pas savoir, c'est de la légitime défense, ou alors tu as besoin d'avoir une réponse? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi?
Pour moi, j'aimerais avoir une réponse, ne serait-ce que pour savoir, parce que moi, je suis quelqu'un qui a fort besoin de comprendre. Quand je ne comprends pas, ça m'agace. Et donc, j'aurais besoin d'une réponse, mais limite en mon fort intérieur, et encore une fois, ce n'est pas bien ce que je vais dire, mais limite, je préférerais qu'elle l'ait fait, plutôt que pas fait.
Tu aurais presque une petite déception quelque part?
Ouais, et puis... dans ma tête, je me suis tellement dit qu'elle l'avait fait parce que c'est ce qu'elle nous a avoué et parce que on nous a tellement rabâché que ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait fait, que dans ma tête, elle l'a fait, quoi. Et bon.
Donc, elle sort de ces 6 mois. Elle a un bracelet électronique, j'imagine.
Même pas.
Même pas.
Elle sort...
Enfin, j'allais dire tant mieux quelque part pour elle dans ce truc de liberté un petit peu, mais je trouve ça dingue.
Alors, elle sort à plusieurs conditions. La première, c'est d'avoir un logement fixe. Sachant que son logement, là où ça s'est passé, il est sous scellé. Donc, elle ne peut plus y habiter. Puis, de toute façon, je ne pense pas qu'elle aurait voulu. Ma grand-mère ne peut pas l'héberger. Je ne peux pas l'héberger non plus parce que trop petit logement.
Mais vous aviez le droit.
Mais on aurait eu le droit.
D'accord.
Je pense qu'il y aurait eu des démarches à faire, mais on aurait eu le droit. Et ma grand-mère, de par ses connaissances, a réussi à lui trouver une place en CHRS, donc centre d'hébergement pour femmes, grosso modo, à une demi-heure de chez nous. Donc... elle y vit pendant 1 an et demi. Et malgré tout, bon, heureusement qu'il y avait cette solution-là, mais malgré tout, ça lui a laissé pas mal de séquelles parce qu'elle s'est retrouvée avec des personnes avec des situations compliquées, de tout âge, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes mamans aussi. Et puis, ma mère, elle aspire à une... maintenant, elle a 54 ans, mais elle aspire à une vie calme, seule. Et en fait, elle s'est retrouvée dans un brouhaha pas possible, avec des éducateurs.
Et en plus de ça, j'imagine que pendant 1 an et demi, elle devait être dans un flou total parce qu'elle est libérée, mais en même temps, elle ne sait pas ce qui se passe par la suite. Ça devait
tout
être compliqué émotionnellement
à
vivre.
Tout à fait, c'était compliqué pour elle. Et aussi, 2 autres choses, elle devait pointer, donc entre 2015 et 2021, elle devait pointer 2 fois par mois au commissariat de son secteur.
Attends. Entre 2015 et 2021, elle est restée dehors...
En liberté conditionnelle.
Donc c'est pas 1 an et demi au final.
Non, elle a vécu 1 an et demi en foyer, après elle a retrouvé un petit logement.
D'accord, ok.
Donc un gros sentiment d'injustice pour ma part de la réincarcérer pendant 6 ans.
Oui, c'est ça. Mais donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces années-là, finalement ?
Eh bien, donc elle vit 1 an et demi en foyer. Une éducatrice spécialisée réussit à lui trouver un petit logement sur Lens. Donc un petit logement, une maison. Elle y vit. Bon, elle recommence un petit peu sa vie. Et puis, elle pointe 2 fois au commissariat. Elle a l'obligation aussi de se rendre à la maison du droit et de la justice de son secteur pour faire un suivi socio-judiciaire avec une mandataire judiciaire. Donc, faire le point sur sa situation. Où est-ce que vous en êtes, personnellement, professionnellement, ce qui va, ce qui va pas. Et quelque chose que j'aimerais dire aussi, c'est que, à mon grand étonnement, elle n'a pas eu l'obligation de soins. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas l'obligation de voir ni un psychologue, ni un psychiatre. Et moi, je trouve ça personnellement grave, parce qu'avec tout ce qu'elle a vécu,
il n'y a eu aucun accompagnement.
Si elle voulait, elle pouvait y aller, mais aucune obligation. Et ça, vraiment, j'ai du mal à l'accepter parce que je pense que ça lui aurait fait du bien. Mmh. Et donc, dans son petit logement, elle récupère ses chiens. Mmh. Elle rencontre quelqu'un sur Internet avec qui elle a vécu quelques mois, mais qui malheureusement est décédé depuis. Donc, elle a vécu ça en supplémentaire, c'est-à-dire que pendant qu'elle était avec lui, il est décédé. Donc, il y a eu...
Elle était amoureuse et
elle était amoureuse. Alors... Je pense que c'était plus un compagnon de route qu'un amoureux. Mmh. Mais après,
une relation un peu pansement qui fait du bien.
C'est ça, une relation pansement. Ouais.
Et juste, toi, ta relation avec ta maman en ce moment-là, est-ce que vous vous êtes rapprochés ? Est-ce que c'est comme avant ?
Alors, étonnamment, on s'est fort rapprochés quand elle était incarcérée. Mais quand elle est sortie, malheureusement, elle a fait 2-3 petites bêtises. C'est que elle a rencontré sur Internet, avant de rencontrer ce monsieur qui est décédé, elle a rencontré un brouteur. Je ne sais pas
Qu'est-ce
si tu vois
ça,
ce que c'est. Alors, c'est un monsieur en Côte d'Ivoire. Bon, je dis peut-être pas l'exactitude, hein, mais en Côte d'Ivoire, qui contacte les personnes pour leur soutirer de l'argent.
Mais donc en fait, je savais pas que ça s'appelait un brouteur.
Ouais, si. Okay. Et donc en fait, elle avait un réseau social. Enfin, elle était sur Facebook. En fait, elle mettait tout en public. Mmh. Donc tous ses états d'âme, tout le monde pouvait le voir. Et en fait, je pense qu'ils ont trouvé. Enfin, ces brouteurs ou ce brouteur a trouvé son profil et il a commencé à la dragouiller et tout ça.
Et elle a cru.
Elle l'a cru. Et moi, je lui avais dit directement parce qu'il avait envoyé des fausses photos et tout ça. Et moi, je lui ai dit attention, c'est un arnaqueur.
Et en fait, tu l'as senti tout de suite, toi.
Ouais. En fait, je fais une petite parenthèse. Là encore, aujourd'hui, c'est une relation, c'est triste à dire, mais c'est un peu moi la maman et elle la fille. Et donc, en fait, je pense qu'elle était dans une euphorie d'avoir rencontré quelqu'un et elle était contente. Et en fait, elle a envoyé de l'argent via mandat cash ou je sais plus quoi.
Ça. Et ouais, en fait, c'est mignonne et tout ça.
Voilà, ouais, exactement. Ouais. En fait, ça allait trop loin à tel point qu'en fait, on a fait une demande de mise sous curatelle parce qu'on estimait qu'elle avait pas la capacité nécessaire pour gérer son compte en banque. Parce qu'en fait, elle voulait continuer. On ne savait pas jusqu'à où ça allait aller.
Et elle faisait ça parce qu'elle croyait, elle pensait être amoureuse de cette personne.
Voilà,
et donc
c'est
elle voulait
ça. C'est ça. Puis c'était quelqu'un qui, même si c'était des fausses paroles, c'est quelqu'un qui s'intéressait à elle. Mmh. Donc elle avait un contact. Parce qu'il faut savoir qu'après avoir été en prison et ensuite avoir été au foyer, elle était toute seule, à part des visites de famille. Mais comme on n'a pas une grande famille, c'est vite limité aussi. Hein. Et donc ensuite, elle rencontre cette personne sur Internet qui vient vivre avec elle. Et puis malheureusement, il décède. Donc ça a été un coup dur aussi pour elle, sachant que ce monsieur avait 3 enfants, 3 grands-enfants qui vivaient sur Paris. Donc, ils sont venus à la rencontre de ma mère. Il y a eu un enterrement qui s'est fait par chez nous, etc. Et donc ça, c'était en 2018-2019. Et puis, en 2020, on a eu des nouvelles de l'instruction qui était en cours et on nous a appris qu'il allait donc avoir une audience en cour d'assises, donc un procès.
Ok. T'étais dans quel état quand t'as appris ça ?
Limite, j'étais enfin, on va pouvoir tourner la page.
Et elle aussi ?
Ouais, parce qu'elle, elle vivait avec une épée de Damoclès sur la tête. Okay. Et entre deux, malheureusement, et pourtant, c'est pas faute qu'on lui ait conseillé, elle n'a pas retrouvé de travail. Elle avait commencé une formation de chauffeur de bus, mais je crois pas qu'elle soit allée au bout. Je lui avais dit aussi, on lui avait conseillé de faire du bénévolat. Ça aurait pu être intéressant aussi pour elle se sortir un petit peu de son quotidien. Et en fait, elle n'a pas voulu, retrouver un travail, sachant qu'il y avait peut-être une peine. Je peux comprendre que c'est compliqué.
Podcast. Et justement, j'allais te demander à combien d'années elle a été condamnée.
4 ans.
À 4 ans.
4 ans. Donc, il y a eu un procès. En fait, le procès en cour d'assises devait avoir lieu en 2020.
D'accord.
En mai. Donc, il y a eu le Covid.
Et oui, c'est vrai.
Donc, ça a été reporté.
Ça a été reporté.
Ça a été reporté. Et ensuite, ça devait avoir lieu en mai 2021.
D'accord.
Ça avait commencé, en fait, ça a duré 2 jours et demi.
Okay.
Et moi, au départ, tant que je n'avais pas témoigné, je ne pouvais pas assister. Sauf si je me constituais partie civile, ce que je ne voulais pas.
D'accord.
Parce que pour moi, me constituer partie civile, c'était représenter mon père. Et je ne voulais surtout pas qu'on s'imagine que je le représentais. Et en fait, pas de bol, à la première journée, il y a une magistrate de la cour qui a fait un malaise.
D'accord.
Et comme elle ne pouvait pas être remplacée parce que c'est elle qui suivait l'affaire depuis le début, procès reporté, de nouveau. Donc, gros stress, parce que toujours attendre, toujours se remettre dans de l'anxiété. Et donc, de mai 2021, ça a été reporté à octobre 2021.
Oh,
et là, en octobre 2021, il s'est bien passé.
Donc, presque pile un an, quoi.
Presque, ouais. Entre la première avec le Covid reporté,
incroyable.
Ouais,
c'est incroyable que ça batte si longtemps.
Si longtemps. Et encore, il paraît qu'on a eu de la chance, parce que ça aurait pu être reporté encore plus tard. Ça dépend s'ils avaient de la place, grosso modo, de nous caser.
D'accord.
Dans leur planning
surchargé.
Donc,
et donc, il y a le procès donc, en octobre 2021. Mm-hmm. Donc là, elle est inculpée à 4 ans de prison.
C'est ça.
Elle est actuellement en prison.
Oui.
Dans la même prison que...
Non, au début de octobre 2021 à décembre 2021, elle a été à la même prison, donc
d'accord.
À Sequedin. Et en fait, Sequedin, c'est une maison d'arrêt. Donc, c'est une prison... pour ceux qui font de la préventive, comme ça a été son cas en 2015, pour ceux qui sont condamnés à une peine de moins de 2 ans, ou pour ceux qui sont en attente d'un transfert, ce qui a été son cas en 2021. Et en décembre, elle a été transférée donc, dans un centre de détention à Bapaume.
Décembre 2021.
Ouais. Dans un centre de détention à Bapaume, et le centre de détention, en tout cas pour Bapaume, c'est celui qui accueille les personnes présentant un bon profil de réinsertion.
D'accord.
Donc, c'est déjà une bonne chose.
Donc là, elle est dans cette...
dans ce centre de détention. Et donc, il y a un quartier homme et un quartier femme.
OK.
Voilà.
Est-ce que tu as pu la voir depuis ?
Oui, oui, oui. Donc là, ça a été un petit peu plus vite. On a pu faire une demande de permis de visite qui a été acceptée en 2-3 semaines. Et donc, depuis plus d'un an, j'y vais régulièrement avec ma grand-mère ou avec mon compagnon, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Ça dépend...
Je voulais te demander, quel est ton rapport avec ta mère maintenant ?
Ça va mieux. C'est triste à dire, mais on s'entend mieux...
Quand elle est en prison.
Quand elle est en prison, ouais. Parce qu'en fait, quand elle est sortie de prison en 2015, il y a eu ces histoires où elle envoyait de l'argent, etc. Et en fait, on avait perdu la confiance qu'on avait en elle. Et puis, elle n'était pas bien. Ça fait des années qu'elle fait de la dépression. Et puis... là, on aspire qu'à une chose, c'est qu'elle sorte, mais il faudra, quand elle sortira...
Se faire aider,
se mettre un bon coup de pied aux fesses, même si je sais que c'est pas facile, parce que je pense que malgré elle, elle compte beaucoup sur nous. Je veux pas qu'on soit la facilité, il faut aussi qu'elle se bouge par elle-même et surtout qu'elle se fasse aider quoi, pour aller mieux.
Est-ce que tu as la sensation que depuis qu'elle est incarcérée, je dirais peut-être même depuis 2015 au final, est-ce que tu sens que ta vie a pris un tout autre tournant et que tes réflexions, tes priorités, tes centres d'intérêt, tes réflexions, est-ce que tout a bougé, est-ce que tout a changé ou pas ? Je sais que c'est un peu une question bizarre, mais...
Ouais, mais c'est vrai parce que depuis ce temps-là, ma vie, elle tourne beaucoup autour de ça. Donc, on a eu un peu de répit quand elle est sortie, mais tout en sachant qu'il fallait se replonger dans ça parce que de toute façon, un jour ou l'autre, il y aurait un procès. Et là, depuis un an, c'est beaucoup de stress. Quand est-ce qu'elle va sortir ? Comment on peut faire pour qu'elle puisse sortir au plus vite ? Qu'est-ce qu'on peut... Vers qui il faut se tourner ? Parce que moi, ça fait un an que... j'oscille entre les contacts avec l'avocate de ma maman, son SPIP, donc son conseiller pénitentiaire, donc c'est la personne qui travaille à la prison et qui s'occupe de faire la relation, le lien entre l'intérieur de la prison et l'extérieur. Donc j'ai des contacts avec lui, j'ai gardé contact avec la mandataire qui l'a suivie dans le cadre du suivi judiciaire. En fait, ma vie tourne beaucoup autour de ça, malgré moi, et quelque part, je ne suis pas obligée de le faire, mais je me le dois, parce que je me dis, elle a tellement subi, Elle a tellement souffert que...
Que c'est ma manière à moi de la...
De l'aider.
De l'aider,
de l'aider, ouais.
Comment t'arrives à te reconstruire avec tout ça? Est-ce que tu vois quelqu'un? Est-ce que, quand je dis quelqu'un, c'est un psy? Est-ce que ton compagnon, il est là, même si j'ai compris que c'était un peu compliqué en ce moment? Mais comment tu fais pour, ouais, pour te reconstruire?
Alors, je vois un psy, donc j'en ai vu une entre 2017 et 2021, donc une psy publique, hein, que tout le monde peut aller consulter. Et très sincèrement, je ne voyais pas d'avancée avec elle. Donc là, tout récemment, j'ai pris mon premier rendez-vous avec un psy privé.
Ouais, génial, super.
Parce que j'ai appris, et ça, on ne nous le dit pas assez, mais que certaines mutuelles remboursent...
Tout à fait, depuis pas longtemps.
Voilà, de, prennent en charge certaines séances.
Je crois que c'est 8 séances, il me semble.
Oui, quelque chose comme ça, un certain montant. Donc j'ai pris un premier rendez-vous avec lui et... La manière de... Enfin, l'approche n'a rien à voir.
Ça matche bien, quoi.
Ça matche bien. On voit, on sent qu'il est beaucoup plus investi. Et je pense que je vais pouvoir avancer. Après, au niveau de la reconstruction, ben, avec mon compagnon, oui, c'est vrai qu'il m'a pas mal soutenue depuis de nombreuses années. Parce que je pense que c'est beaucoup ce que m'a dit ma grand-mère. C'est beaucoup ce que m'a dit ma famille. Quand il a vu l'histoire de fou qui se produisait, il aurait pu partir. Il aurait pu se dire, non, je veux pas... Je veux vivre une vie tranquille. Je veux pas être embêtée avec ça. C'est trop compliqué. On arrête là. Et il est resté là malgré toutes ces années, mais là, j'avoue que, ouais, en ce moment, c'est assez compliqué pour. Ça a un rapport avec la prison, et en même temps, il y a d'autres choses qui font que. Sinon, à part ça, niveau soutien, ben, j'ai la famille, mais pareil, la famille, c'est beaucoup. On est tous angoissés. Mmh. On est tous angoissés, et en fait, quand on se parle, c'est beaucoup de ça, c'est beaucoup d'inquiétude. Et.
J'allais te demander, justement, comment tu te sens en ce moment?
Ça va pas. Mmh. Ça va pas. Je vais pas pleurer, mais en tout cas, je vais essayer de ne pas pleurer. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, administrativement, au niveau de la prison, ça n'avance pas beaucoup. Il faut toujours aller taper aux portes. Il faut toujours essayer d'aller appeler quelqu'un. En fait, il faut leur tirer les vers du nez pour que ça avance. Et en fait, c'est beaucoup de charges mentales. Et en fait, pour la faire courte aussi. Comme je suis fille unique, bon, bah, tout repose sur moi. Et ma mère n'a pas beaucoup de famille. Enfin, je veux dire, déjà, elle a plus son père qui est décédé quand j'étais petite. En fait, grosso modo, il n'y a que moi et ma grand-mère. Donc, ma grand-mère, elle s'occupe d'aider financièrement ma mère pour qu'elle puisse cantiner en prison. Elle l'a déjà aidée financièrement dans le passé. Et en fait, moi, j'essaye de gérer tout ce qui est administratif. Relations avec les mails, relations avec l'avocate.
En fait, t'as beaucoup de poids en fait à porter.
Ouais, franchement,
t'as beaucoup de poids à porter et j'allais dire j'imagine, je peux pas imaginer, enfin je peux imaginer, mais que émotionnellement ça doit être très difficile pour toi parce que tu dois te sentir au final très seule, même s'il y a ton compagnon et
ta
grand-mère.
C'est ça.
Et que peut-être quelque part inconsciemment ou peut-être consciemment d'ailleurs, quand ta mère sera libérée, ce sera une manière aussi de penser à toi.
Ouais, il faut que je pense à moi parce que...
Mais moi, je t'invite, même si je ne suis pas dans ta vie, etc., de penser à toi, c'est hyper important, et de le faire maintenant.
Ouais.
Et ce n'est pas parce que tu penses à toi que tu es une mauvaise fille,
oui.
Tu vois. Vraiment, c'est hyper important, je te le dis, parce que je pense que ta mère reste ta mère et elle veut ton bien, elle t'aime. Et je pense sincèrement, je sais que tu ne me demandes pas de conseils, mais que de penser à toi peut te faire beaucoup de bien. Et quand
bien
je dis
sûr.
Penser à toi, c'est... Aller voir un psy,
ouais.
C'est te balader,
ouais.
C'est rien faire pendant une journée ou c'est te faire masser, je ne sais pas, ça peut être 12 milliards de choses, mais de te dire qu'en fait, là, j'ai la sensation de ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, que depuis 2015, donc depuis 7 ans,
ouais.
Tu t'es oubliée.
Ouais, je me suis oubliée,
et
je me suis mise de côté.
Ça s'entend,
ouais.
Ça s'entend vraiment.
Ouais, ouais, ouais.
Et je comprends ça, mais je crois que malgré tout, c'est peut-être très facile à dire, mais ta vie, c'est ta vie.
Ouais.
Et c'est important que tu en prennes conscience
bien
aussi.
Bien sûr. Podcast. Donc, le logement que ma mère habitait avant d'être incarcérée, donc c'est un logement par un bailleur social. Et pour un détenu, l'aide pour le logement, donc versée par la CAF, est versée pendant un an. Donc, pendant un an, sans trop faire de dépenses, parce qu'il lui restait un petit peu de sous sur son compte bancaire, on a pu facilement garder le logement, parce qu'au final, il n'y avait que quelques euros de loyer. On avait laissé les compteurs eau, électricité. Et en fait, depuis ce mois-ci, parce que ça fait un an et un mois ce mois-ci, le loyer passe en taux plein. Donc, un tout petit peu moins que 300 euros. Bon, je sais qu'au vu de la vie à Paris, c'est pas grand-chose.
Non,
mais en
si,
vérité,
beaucoup,
ouais, par chez
sûr.
Nous, c'est beaucoup. Et donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est est-ce qu'on rend le logement parce qu'on n'a plus les moyens de le payer ?
Est-ce que tu as pensé à un financement participatif ? Tu sais, de demander de l'argent.
Mon compagnon, il m'en a parlé, mais j'avoue que j'avais pas...
Parce que franchement, je comprends que ça puisse te mettre mal à l'aise. Et en même temps, si t'as
et
pas les moyens...
Pas.
Et pourquoi pas, tu vois
pas,
et pourquoi pas ? Peut-être qu'il y aura personne qui donnera et peut-être qu'il y aura des centaines de personnes qui vont donner.
Tout à fait.
Donc, je te le dis, si un jour tu mets ça en place, n'hésite pas à nous contacter.
Ouais, c'est gentil.
J'en parlerai. Parce que,
c'est gentil.
Tu vois, ça, en fait, c'est... Pour moi, c'est des mini-détails de charge mentale en moins. De te
bien
dire,
sûr.
En fait, moi, là, je ne peux pas assumer ça financièrement. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, viens, on demande de l'argent aux gens.
Mmh. On ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Ouais, tout à fait. Ce serait une idée à envisager, tout à fait.
Ouais.
Ouais, parce que, donc, de fait, est-ce qu'on garde le logement ? Est-ce qu'on va réussir à le payer ? Auquel cas, parce que si ma mère n'a plus son logement, quand elle sortira, soit elle devra retourner vivre en foyer. Et vu l'expérience qu'elle a eue il y a plusieurs années, si on peut lui éviter, c'est encore mieux. Soit il faudrait qu'on l'héberge, mais pareil, pour combien de temps ? Sachant que...
Et est-ce que tu as envie ? C'est une question qui se pose aussi.
Oui, mais justement, j'y ai pensé très sincèrement. Si c'est pour un court terme, ça ne me dérange pas. Mais sans savoir combien de temps ça va durer, je n'ai pas non plus envie que ça empiète sur ma vie privée. Et puis le logement, en tout cas, moi je vis dans une maison où il n'y a que mon compagnon qui est propriétaire. Moi, je ne suis pas sur le bail.
Oui.
Donc, ce serait aussi lui imposer de vivre avec ma mère. Et puis, bon, faut le vouloir, il y a la
bien
vie
sûr.
Privée, etc.
Oui.
Et donc, on essaye de faire ce qu'on peut pour garder le logement, à savoir qu'au niveau aide financière sociale, il n'y a plus d'aide financière possible. On a essayé de taper à toutes les portes. On a pris rendez-vous à la CAF. On a essayé de contacter le conseil départemental du Pas-de-Calais. Et en fait... Je comprends tout à fait, mais ma mère ne fait pas partie des barèmes. Étant donné qu'elle est incarcérée, eux nous disent « rendez le logement. Si financièrement, ce n'est pas possible, rendez-le et tant pis. » Mais nous, on tient vraiment à ce qu'elle le garde, et c'est son souhait aussi, parce que quand elle sortira, malheureusement sans savoir quand, au plus tard en avril 2024, elle retrouvera son logement, son voisinage, parce qu'elle a un très bon voisinage, c'est un quartier calme, ses habitudes... Et donc, c'est tout bénef pour elle. C'est bien, quoi.
Et bien, si tu réfléchis à cette histoire de financement participatif, je te le redis, mais pense à moi. Envoie-moi
c'est
ça
gentil,
et je partagerai ça sur les réseaux sociaux. On va devoir s'arrêter là, Morgane. J'aurais aimé vraiment qu'on en parle pendant des heures, vraiment.
C'est vrai qu'il y aurait des choses à dire.
Il y a beaucoup de choses à dire.
Sur l'administration carcérale, c'est très long, très compliqué.
Je me doute qu'il doit y avoir énormément de choses à dire là-dessus. Sur les violences conjugales, il y a plein de choses à dire, à dénoncer. Je te remercie infiniment, mais vraiment, pour d'être venu et d'avoir partagé ça, parce que c'est pas n'importe quoi, je veux dire. Et puis tu le fais en plus avec beaucoup de bienveillance et de spontanéité, et je te remercie pour ça. Et je te trouve très, très courageuse et très forte.
Merci.
Et vraiment, j'insiste, pense à toi.
Oui.
Pense à toi. C'est pas pour autant que t'es une mauvaise fille, hein. Vraiment.
Bien sûr.
Ta maman, elle l'entendra, elle le comprendra. Et voilà.
Je te remercie aussi beaucoup pour ton écoute et puis pour tout le monde. Et c'est bien aussi d'avoir proposé ce thème-là, parce que c'est pas un thème qu'on entend souvent.
C'est
même
vrai,
si on en parle de plus en plus dans les médias, ça reste quand même rare et les gens ont du mal avec le côté sombre un petit peu.
C'est vrai, tout à fait. Et c'était important de te donner la parole là-dessus. Merci à vous aussi pour votre écoute, pour votre fidélité et votre soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur et c'est toujours important de le dire, donc je vous le dis, merci beaucoup. Pensez à vous abonner au podcast, de lâcher une petite étoile, de lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur Twitch. Et pour celles et ceux qui écoutent cet épisode le mardi 6 décembre, je vous donne rendez-vous ce soir sur Twitch aux alentours de 19h30 pour le troisième et dernier hors-série de la saison. À la semaine prochaine, même studio, même micro. Je vous embrasse. Ciao. Podcast.